Les Déambulations de Blandine, un podcast pour déambuler librement entre art et création. Une réalisation de monstudio.tv.
Donc première promenade, on commence tout simplement au bout de la rue Clémenceau, on rentre dans le jardin des plantes et la première chose qu'on peut regarder, d'une part les petites sculptures du portail d'honneur qui sont dues à un monsieur Louis Thomas. Ce monsieur a restauré des églises, a restauré des morceaux de bas-relief dans la cathédrale, c'était avant tout un graveur, mais bon voilà, il intervient sur ce portail d'honneur. On continue notre petite promenade et on descend. Et là, c'est important, je vais m'arrêter un tout petit peu plus longtemps. On voit le buste du docteur Écorchard. C'est un monsieur qui a eu un rôle extrêmement important. Alors, cette sculpture date de 1893, mais il faut bien savoir qu'elle a été totalement refaite car la majorité des bronzes à Nantes ont été fondus au moment soit de la Première Guerre mondiale, soit de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce buste d'Écorchard a été commandé de façon très officielle à Charles Lebourg, qui est aussi un sculpteur dont on va pas mal parler, qui est un sculpteur important. Elle est inaugurée le 4 juin 1893, et pourquoi ? Eh bien parce que Écorchard a créé le jardin des plantes. Il existait avant, mais c'était une petite chose, avec quelques carrés, avec des cultures fruitières médicinales, mais vraiment une petite chose. Mais Écorchard, lui, a eu une formation de médecin, de botaniste, à Paris. Et quand il arrive à Nantes, on lui confie d'abord une chaire de botanique, puis finalement, on lui propose de créer un jardin des plantes. Et alors là, chose tout à fait étonnante, il va faire un travail énorme. Il souhaite absolument que ce jardin soit un jardin école, école de botanique, école d'horticulture et de paysage. Et eh bien, il faut imaginer, c'est difficile à imaginer, mais avant, le jardin des plantes, c'était un terrain plat, marécageux, boisé et broussailleux. Donc on imagine tous les travaux qu'il a fait pour créer d'abord cette colline, on monte, on descend en permanence, ces petits étangs sur lesquels il fait couler de l'eau. Et vraiment, il va créer, en fait, ce qu'on aime beaucoup faire au 19e, tout de même, il faut le dire, un jardin, non pas à la française, mais un jardin romantique, avec un nombre d'espèces tout à fait étonnantes. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ce jardin des plantes, mais ça reflète vraiment l'histoire au sens très large de Nantes, parce qu'on y retrouve toutes les graines et toutes les plantes que les grands capitaines et voyageurs nantais rapportent de leur voyage d'un peu partout. Donc ce monsieur Écorchard a un buste. Quand on redescend le long de la rue Baudry, Baudry qui est un très grand peintre, dont on peut voir des œuvres au musée de la Roche-sur-Yon. Et que monsieur Écorchard, eh ben, malheureusement, donc il disparaît, son buste disparaît. On va demander à Alain Douillard, qui est un sculpteur nantais, qui a entre autres restauré les sculptures du Théâtre Gralin, de l'École de commerce. On lui demande de refaire le buste d'Écorchard, dont on a une photographie très précise. Alors, à qui on avait commandé le buste d'Écorchard ? On l'avait commandé à un autre sculpteur nantais, qui lui naît en 1829, donc il est vraiment du 19e, ce qui meurt en 1906. Et Charles-Auguste Lebourg, vous ne savez pas, mais vous le connaissez très bien. Vous le connaissez très bien pour la bonne raison que c'est lui qui est à l'origine des fontaines Wallace, que tout le monde connaît, qu'on a vu absolument partout. Et ces fontaines Wallace, eh bien il y en a une, puisque Lebourg va obtenir que Nantes bénéficie de 5 fontaines. Voilà. Ces fontaines, eh bien, c'est M. Wallace, qui était un très riche mécène, qui va se rendre compte qu'au moment de la guerre de 70, les Parisiens manquent d'eau. Il n'y a plus d'eau potable, et c'est quand même un des gros problèmes, l'approvisionnement d'eau. Et donc, il se propose de payer à Paris une centaine de fontaines qu'il va donc commander à Lebourg. D'où la grande notoriété de Lebourg. Alors, voilà, c'était aussi collectionneur d'art. Alors qu'il a beaucoup vécu à Paris, très très longtemps, il avait une énorme collection qu'il a malheureusement donnée à la reine d'Angleterre. Quelle idée! Soyons contents d'avoir au Jardin des Plantes cette fontaine qui était extrêmement célèbre, qui au départ était une fontaine à boire, puisqu'on avait même dans la fontaine d'origine, il y avait deux petits gobelets qui permettaient de boire. Bon, on s'est dit que dans les années 50, c'est pas très hygiénique de boire tous dans le même gobelet, qu'on a supprimé les gobelets. Mais donc cette fontaine qui, pour les trois cariatides qui sont au-dessus du socle, rappelle en fait une fontaine célèbre de Paris, qui est la fontaine des Innocents, qui est due au ciseau du sculpteur renaissant Jean Goujon. Voilà, donc grâce à notre ami Lebourg, ce Nantais Lebourg, nous voilà avec une fontaine Wallace. On continue notre promenade, on avance un peu et tout en bas maintenant de la promenade dite des cerfs, on va trouver une énorme sculpture, énorme, qui sont la réunion d'un cerf, d'une biche et d'un faon qui date de 1900. Voilà. Donc, nous allons trouver au bout de la promenade des Serres, une énorme sculpture, vraiment une très très grosse sculpture en bronze, qui d'ailleurs était présentée au salon de 1900, et que Guistot, on connaît son boulevard, mais il faut savoir qu'il a été sous-secrétaire d'État et qu'il a géré la ville de Nantes, Guistot l'a fait attribuer à la ville. Alors, c'est un peu compliqué, parce que ce groupe qui est dû aux ciseaux de Gardet, qui était un des grands sculpteurs animaliers, formé par un autre sculpteur animalier qui était Barias, cette énorme sculpture, elle fait 5 mètres de haut et 3,50 mètres de large quand même. D'abord, il faut la refondre, parce que si Guistot en obtient un exemplaire, en général, les sculpteurs ont toujours plusieurs exemplaires en bronze, et donc il faut un petit peu attendre. 2 ans après, la fonte est faite, la sculpture arrive enfin à bon port. C'était très compliqué, il y avait un seul camion sur lequel on transportait cette énorme chose, et elle va être installée en 1911. Mais la guerre mondiale passe par là, pour des raisons que j'ignore, je pense qu'on a essayé de la fondre, mais elle va être en fait démantelée. Il ne va rester que le cerf d'un côté, le faon d'un autre côté, et on n'a plus de biche. Quant au cerf, il a perdu ses beaux. Pendant très très longtemps, il n'y aura que le faon présenté dans le Jardin des Plantes. Puis ensuite, on reconstitue comme on peut le faon et le cerf. En 1994, on réinstalle tout ça. Puis quand même, on se rend compte, parce que l'État demandait « qu'avez-vous fait de mon envoi ?» On se rend compte que c'est bien dommage que cette sculpture ait été abîmée, sachant qu'il en existe un exemplaire complet. Et l'exemplaire est conservé au parc de Sceaux. Et donc, chose absolument formidable, il est décidé en 2017 de reconstituer l'ensemble de la sculpture. Et avec l'aide de sociétés privées, l'entreprise Créaform, les fonderies Coubertin, grâce à la méthode de la sculpture en 3D, effectivement beaucoup plus simple, on peut reconstituer ce qui manque de cette sculpture. Et elle est installée et réinstallée dans l'allée des Serres. Donc on peut voir aujourd'hui une énorme pièce de Gardet complète. Le cerf, la biche et son faon. Alors, 3 mots sur Gardet, donc élève à la fois de Barias, de Frémiet. De quoi va-t-il vivre surtout ? Eh bien, très simplement, de commandes officielles. Énormément de commandes officielles, puisqu'il a, je vous disais que la pièce présentée à Nantes a été présentée à l'exposition universelle de 1900, mais du coup, il va travailler pour Mexico. L'aigle surmontant le palais législatif de Mexico est dû à Gardet, ainsi qu'à Winnipeg, palais législatif, ou à Bruxelles, au palais de la Haquette. Bref, il a des très grosses commandes, mais il est malin, il fait aussi des petits formats. Et c'est un des premiers, en fait, à vraiment intervenir sur les petits formats en utilisant des matières précieuses. Il utilise l'ivoire, il utilise la terre cuite, le grès, la porcelaine. Et donc, il a un double marché, à la fois le marché officiel et assez international, et en même temps un marché privé très complet. Donc voilà pour notre histoire du cerf, de la biche et de son foin. Si on continue dans le temps, il y a pour l'anniversaire de la naissance d'Elisa Marker, cette jolie poétesse nantaise, on commémore en mettant et en posant un petit médaillon. Ce petit médaillon qui est dû à Sébastien de Boéro rappelle tout de même que cette jeune femme nantaise, après avoir fait un joli recueil de poésie, « À nous deux Paris », monte à Paris, est prise d'amitié par Madame Récamier, qui va la présenter à Chateaubriand, à Lamartine, à Naudier, à Mérimée. Mais malheureusement, sa carrière est de très courte durée. Mais voilà, les Nantais ont gardé souvenir d'Elisa Marker en posant 1909, centenaire de sa naissance, une petite plaque que vous pouvez trouver à l'entrée d'ailleurs du Jardin des Plantes, rue Stanislas Baudry. Autre pièce importante, n'oublions pas notre Jules Verne préféré. Alors, grande sculpture de Jules Verne, posée à la demande du sculpteur Georges Barrault au milieu des camélias, qui est quand même la fleur nantaise par excellence. Alors, c'est un grand monument qui a été posé en 1910. C'était dès 1905, date de la mort de Jules Verne. Il avait été décidé de commémorer ce grand écrivain. Souscription publique, il faut un petit peu de temps. Et donc, ce n'est qu'en 1910 qu'on inaugure la sculpture. Et cette sculpture est en 2 morceaux, comme souvent. Vous avez le buste du grand homme qui domine une scène rappelant en fait l'œuvre de Jules Verne, puisque c'est un groupe d'enfants, une jeune fille, un petit garçon qui lisent les recueils des voyages extraordinaires de Jules Verne, et on voit représenter au-dessus de ces 2 enfants un quartier de lune, une montgolfière, un train empruntant un viaduc, un volcan, une caravelle, tout cela rappelant tous ces romans autour de l'espace et des voyages autour du monde. Alors, si le socle de la sculpture est en pierre de Chauvigny, le buste est en bronze. Et bien sûr, le bronze de Georges Marot va disparaître et va être fondu. Donc on va demander à un autre sculpteur nantais, parce que Georges Marot était originaire de Paimbœuf et il mourra à Nantes, Jean Mazuet, qui lui est originaire de Saint-Brieuc, mais qui mourra à Oudon, donc il se rapproche de Nantes, et d'ailleurs il est professeur à l'école de Nantes, dès après la Seconde Guerre mondiale, ayant été formé par un grand sculpteur, Landowski. Voilà pour ce monument, très joli monument, à la mémoire de Jules Verne. Ensuite, une très jolie pièce, une pièce qui est assez charmante, qui est La baigneuse au miroir. Alors j'ai eu beaucoup de mal à savoir de qui c'était, parce que les informations ne sont pas forcément extrêmement justes, mais finalement, j'ai vraiment trouvé. C'est dû au sculpteur Camille Alaphilippe. Alors, je ne le connaissais pas, je dois vous avouer, mais c'est un sculpteur et céramiste qui est né à Tours, qui meurt en Algérie et qui est assez intéressant. C'est vraiment un très bon sculpteur Art Nouveau. La sculpture d'ailleurs date de 1909 et cette baigneuse au miroir, en fait, c'est une femme qui tient un bébé au-dessus d'un, non pas un lac parce que c'est pas assez grand, mais en fait d'un petit miroir d'eau. Et en fait, c'est l'expérience de l'enfant qui va se refléter dans l'eau. C'est vraiment une jolie pièce. Et ce Camille Alaphilippe, lui, après avoir été nommé directeur de la manufacture de grès d'Alexandre Bigot, va aller diriger la section de la sculpture à l'école des Beaux-Arts d'Alger. C'est là qu'il finira sa carrière et je ne sais pas, c'est peut-être que certains d'entre vous savent, s'il existe encore tous ces monuments dédiés aux victimes de la Grande Guerre qui ont été commandés à Camille Alaphilippe, à Tipaza, à Mostaganem, à Borjbou Adirich, à Batna, à Saïda, etc. Je n'ai pas vraiment vu beaucoup de choses. Mais voilà comment ce sculpteur, après avoir fait cette œuvre tellement Art Nouveau et tellement sur l'amour maternel et les premières fois qu'un enfant se regarde dans de l'eau, qui orne donc le Jardin des Plantes. Enfin, une pièce de Denis Gélin, La moissonneuse ou La dame à la gerbe, caractéristique de la sculpture assez académique des années 40. Elle date d'ailleurs de 40, où on retrouve ces formes cubiques beaucoup plus dures, beaucoup plus sèches, faites par ce sculpteur dont on connaît peu d'œuvres. Il a énormément travaillé au Canada, puisqu'il y a fait, entre autres, les reliefs pour le restaurant de l'Île-de-France à Montréal, ainsi que des statuettes pour un café à Toronto. On arrive à la période contemporaine puisque depuis qu'existe Voyage à Nantes et avant Estuaire, le Jardin des Plantes y participe très régulièrement. Je suis sûre qu'un certain nombre d'entre vous ont vu les sculptures de Claude Ponty qui sont en permanence tous ces bancs. Claude Ponty qui est ce créateur du poussin masqué s'est amusé plusieurs années dans le Jardin des Plantes à mettre en place un certain nombre de bancs. Bancs pour géants, bancs pour causeuses, petits bancs processionnaires, etc. Et cette espèce d'ours qu'on trouve sur une des pelouses qui est en train de faire la sieste, dormant. C'est vraiment l'artiste dont on retient le nom, mais il y a toute une série d'artistes qui sont passés au Jardin des Plantes, et en particulier, bon, une belle installation, Johan Le Guilherme, qui est entre l'art du cirque et la sculpture, d'autres pièces de Jean Julien. Puis je dois juste vous parler d'une petite œuvre dont je n'ai pas retrouvé le nom de l'auteur. J'en suis désolée, j'ai cherché. C'est une œuvre que je trouvais extrêmement juste dans un lieu comme le Jardin des Plantes. Cet artiste avait repéré qu'il y avait un tulipier de Virginie. Le tulipier de Virginie est un arbre très très important parce qu'il consomme énormément de gaz carbonique. Il rejette en fait de l'oxygène pour qu'on puisse respirer correctement. Donc c'est un arbre qui écologiquement est extrêmement important et il y en a de magnifiques exemplaires au Jardin des Plantes, dont un plus vieux d'au moins 150 ans. Et elle avait pris la feuille, la forme de la feuille de ce tulipier de Virginie pour faire un petit circuit pédestre. Elle avait réalisé ses feuilles en céramique blanche qu'elle avait insérées dans le sol. Et on se promenait depuis l'entrée du Jardin des Plantes jusqu'au tulipier de Virginie en marchant sur ces feuilles de céramique. J'aurais aimé retrouver son nom, j'aurais aimé vous citer son nom, mais je dois avouer que je n'ai pas retrouvé. Voilà, et donc tous les ans, eh bien, nous pouvons nous promener au Jardin des Plantes en découvrant un certain nombre à la fois d'artistes contemporains, mais n'oublions pas aussi les grands hommes de Nantes, dont Écorchard, qui nous a donné le Jardin des Plantes.